de Saint-Denis, que vous commencez à connaître un peu, parce que vous avez eu Michael, hein, qui était là, je crois, la semaine dernière, hein, me semble-t-il. Et puis, vous avez eu Vincent aussi, et puis de temps en temps Timothée, hein, qui est encore aux États-Unis. Donc, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous la parole. Je suis venu déjà plusieurs fois dans cette assemblée, mais c'est la première fois que je porte la parole. J'ai la parole de Dieu ici, donc je vous remercie pour votre accueil. Et je vous invite donc, sans plus tarder, à ouvrir votre Bible dans la seconde épître de Paul à Timothée, seconde épître de Paul à Timothée. Donc, 2 Timothée, chapitre 2. Bon, c'est une épître qui se lit très, très facilement, elle n'est pas longue. Donc, si vous ne l'avez jamais encore fait, je vous encourage à le faire d'une traite. C'est une lettre, hein. C'est comme quand vous recevez une lettre, vous la lisez pas ligne par ligne, mais vous la lisez dans son ensemble et après vous pouvez y revenir. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire. Pas là, vous n'aurez pas le temps, mais peut-être cet après-midi ou ce soir. Et nous allons nous attarder particulièrement sur les versets, des versets 8 jusqu'au verset 13. Mais je vous invite à lire dès le premier verset, chapitre 2, 2 Timothée, chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 1. 2 Timothée 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité d'entre les morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Voilà, ceci est la parole de Dieu. Nous allons prier. Notre Dieu, nous te remercions encore pour cette parole et nous mesurons notre insuffisance, notre faiblesse et notre manque de sagesse. Et nous venons à toi pour que, par ton esprit, tu nous guides à travers ta parole, que tu nous illumines et que tu nous conduises et appliques ces vérités dans nos cœurs. Nous te louons en ton nom et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, donc c'est une lettre que l'apôtre Paul écrit à Timothée qu'il appelle son enfant. Mon enfant, c'est son fils spirituel, c'est lui qui l'a sans doute conduit à Christ. Et le jeune Timothée est sans doute découragé. Quand vous lisez les épîtres à Timothée, vous voyez que c'était un jeune homme assez timide, assez craintif, assez peureux. Et sans doute il était, on pourrait dire, en baisse de régime spirituel lorsque Paul écrit ces choses. Paul lui-même, il est en prison quand il écrit cette épître. Donc ses circonstances à lui sont des circonstances très difficiles, et c'est toujours décourageant pour quelqu'un de voir son mentor en difficulté. Et donc, ce que Paul fait à travers cette lettre, c'est qu'il va encourager le jeune Timothée à avancer encore davantage dans l'Évangile, à ne pas oublier qu'il a reçu le don de Dieu, et même il l'encourage à ranimer cette flamme, à ranimer ce don, et à ne pas se décourager. Et au début de cette épître, plutôt vers le chapitre 3, quoi, il dit à Timothée qu'il doit savoir que, eh bien, vers la fin, il y aura des temps difficiles, et que, voilà, il faudra montrer de la persévérance dans les voies du Seigneur. Et les temps difficiles sont les temps aussi dans lesquels nous vivons. Parfois, nous voyons des choses et nous sommes peut-être découragés. Peut-être vous êtes découragé dans votre marche chrétienne à cause de vous-même, peut-être à cause des difficultés que vous voyez en vous-même, ou peut-être aussi à cause des circonstances que vous vivez. Et des fois, on peut se dire « à quoi bon ?» c'est tellement difficile. Et on a envie un peu de baisser les bras. Et Paul dit ici, même si les circonstances sont difficiles, il faut que l'enfant de Dieu, le véritable serviteur de Dieu, prenne courage. Et surtout, il y a une expression qui nous frappe dans ce texte, c'est qu'il invite Timothée à souffrir avec lui, à accepter la souffrance. Et c'est comme s'il dit que l'Évangile draine avec lui une part de souffrance à laquelle le chrétien doit prendre part. Et c'est ce qu'il dit ici, verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Et un peu plus tard, il dira un peu la même chose. Et il donne l'exemple, trois exemples. Il parle de soldats, d'athlètes et de laboureurs qui sont trois disciplines, on pourrait dire, dans lesquelles il faut souffrir. Le laboureur souffre avec son champ, l'athlète, bien, il souffre beaucoup, s'il veut remporter un prix. Et puis le soldat, bien, lui aussi, bien, c'est pareil, il ne s'embarrasse pas de la vie civile. Il doit être vraiment fixé sur ce pourquoi il est engagé. Et chacun a une part de souffrance à accepter dans la marche avec Dieu. C'est vrai que nous vivons dans une société où on essaye de bannir de partout la souffrance. On n'a plus, on a le droit de ne pas souffrir. Et quand quelqu'un souffre, quand il y a de la souffrance, parfois on est même prêt, on entend des fois des personnes qui pointent Dieu du doigt et qui disent, mais si Dieu existe, pourquoi est-ce que il y a tant de souffrance sur cette terre? Et parfois même le chrétien dans sa propre vie peut se poser des questions sur la souffrance, soit physique, soit autre par lesquelles il peut passer. Donc cette méditation, à travers cette méditation ce matin, je voudrais nous encourager, parce que c'est ce que le texte fait ici, à endurer les souffrances, j'appelle ça les souffrances de l'Évangile, c'est-à-dire celles qui sont liées à l'Évangile. Quand on est un enfant de Dieu, eh bien, on n'a pas tous les mêmes circonstances, tous, mais nous avons notre part de souffrance à prendre dans l'Évangile. Et Paul, c'est ce qu'il fait ici, en attendant donc la venue de Christ, c'est ce qu'il dit. Il donne un message, je pense, qui est très fort à Timothée pour l'encourager à prendre sa part de souffrance. Et si on lit le verset 3 dans une... et puis aussi le verset 8, je crois, c'est le verset 8, pardon, verset 3, pardon, voilà. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » D'autres textes traduisent « Prends ta part de souffrance. » C'est-à-dire, il y a, c'est comme un gâteau que l'on partage, il y a une part qu'on pourrait appeler la souffrance, il y a l'Évangile, et le chrétien doit prendre sa part de souffrance là-dedans, il doit la supporter. Et donc, comment endurer les souffrances de l'Évangile? C'est ce que nous voulons voir. Premièrement, ce que Paul dit à Timothée, c'est que pour endurer les souffrances de l'Évangile, il faut se souvenir de Jésus-Christ. Regardez le verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. » Donc la première motivation pour que Paul donne à Timothée est de maintenir le souvenir d'une personne. Parfois, on pourrait encourager les gens en disant « fais ceci » ou bien « fais cela ». Concentre-toi comme ceci, concentre-toi comme cela, fais un travail sur toi-même, etc. L'apôtre encourage Timothée, qui est craintif, on le voit, qui a peut-être un peu honte, il lui n'est pas honte du témoignage à rendre, etc. Donc c'est un homme qui est craintif, qui est peut-être en baisse comme on dit, de régime spirituel, et lui dit « souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. » Et quelqu'un a écrit ceci, c'est un homme qui s'appelait Tozer, il a dit « Seul le grand amour pour la personne nous fait veiller et désirer ardemment son retour. » Pour la personne de Christ, il parlait. « Seul un grand amour pour la personne de Christ nous fait veiller ardemment et désirer son retour. » Il écrit « Cela peut expliquer l'absence de puissance dans l'espérance de retour de Christ. » C'est-à-dire, on peut expliquer cette absence parfois que l'on a dans l'espérance du retour de Christ par un manque d'intérêt pour la personne même de Jésus-Christ. Et donc, il dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Et quand on dit souviens-toi de Jésus-Christ, c'est souviens-toi de Jésus-Christ. Et Jésus, on sait que ça veut dire le Dieu qui sauve. Donc, il demande de se souvenir du Sauveur, de Jésus-Christ qui est ton Sauveur. Et sans doute la première chose que l'on oublie quand on est découragé et quand les souffrances semblent parfois dures à supporter, on oublie Jésus-Christ et son œuvre expiatoire. On oublie Jésus-Christ et le salut qu'il a opéré pour nous et en nous. Et on peut prendre l'exemple du peuple d'Israël. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël ont murmuré tout au long de leur pèlerinage. Et la moindre difficulté, la moindre souffrance donnait lieu à des reproches. Vous vous rappelez comment ils ont reproché à Moïse beaucoup de choses. Et lorsque le psaume 106 rappelle le cheminement du peuple d'Israël, nous lisons ceci au psaume 106, verset 21. Il dit « Ils oublièrent Dieu leur sauveur qui avait fait de grandes choses en Égypte. » Et ce verset m'a interpellé. Il ne dit pas « ils oublièrent Dieu », mais il dit « ils oublièrent Dieu leur sauveur qui avait fait de grandes choses en Égypte. » Donc nous notons ici que c'est le sauveur qui est oublié. De même, Paul attire l'attention de Timothée sur le fait qu'il faut garder à l'esprit la personne et l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Il avait déjà fait mention de ça au chapitre 1, verset 9 et 10, nous n'allons pas le lire. Et donc, on voit ici qu'il y a un puissant motif d'encouragement à méditer sur le salut accompli par Jésus-Christ. Se souvenir de Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection implique, bien sûr, d'avoir été mis au bénéfice de ce salut, de cette mort et de cette résurrection, c'est-à-dire être un véritable enfant de Dieu, un chrétien. Donc il ne s'agit pas simplement, bien sûr, de se souvenir de ce que l'on a lu de Jésus-Christ ou selon de ce que l'on a entendu dire de lui, mais de se souvenir du fait qu'on a été racheté par lui. Quand Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, il parle bien sûr de la personne, parle de son œuvre, mais il parle de l'application de cette œuvre même à Timothée. Timothée, tu as été racheté par Jésus-Christ et tu dois te souvenir de cela. Donc souviens-toi des implications que cela a pour toi, des implications dans ta vie de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Exode 15, versets 1 et 2. Lorsque le peuple d'Israël est délivré d'Égypte, la Bible dit « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent « Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Le verset 2 dit « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous voyez encore là ici, c'est que le salut porté par Christ, eh bien, est l'objet de la, doit être l'objet de notre louange. Nous l'avons chanté ce matin dans plusieurs de nos cantiques. Et ce souvenir de l'œuvre de Christ est ce qui doit être premièrement présent à notre esprit, ce qui nous aide, bien entendu, à endurer les souffrances de l'Évangile. Souviens-toi de Jésus, que Jésus-Christ a souffert. C'est ce que Paul dit aussi à Timothée. Ici, souviens-toi que Christ a souffert et que ce chemin de souffrance, et c'est celui aussi par lequel nous devons passer, l'apôtre Pierre le disait, il disait que Christ a souffert pour nous laisser un exemple afin que nous suivions aussi ses traces. La Bible affirme aussi que les souffrances de Christ, voilà, nous montrent donc le chemin par lequel l'enfant de Dieu doit passer. Ce souvenir de Christ, c'est ce souvenir que Christ nous a sauvés, ce souvenir de son œuvre expiatoire, mais c'est ce souvenir aussi qu'il a souffert et que, eh bien, nous sommes aussi appelés à souffrir. L'apôtre Jean disait que le disciple n'est pas plus grand que son maître et que si Christ a été persécuté, eh bien, nous aussi, nous pouvons être persécutés. Et peut-être, certainement, nous ne le sommes pas en France, mais il y a beaucoup d'autres endroits, d'autres régions du monde où, pour leur foi, les chrétiens sont persécutés. Et la Bible dit, hein, cela peut nous arriver à un moment, on ne sait pas, hein, à un moment de notre vie, que nous ne pouvons pas espérer être mieux traités que notre maître a été traité. Tout à l'heure, le frère parlait du rapport entre le maître et les disciples, du fait que le disciple doit être au pied du maître. Il doit suivre le maître, mais Jésus ajoute aussi qu'il doit le suivre jusqu'au point où il doit supporter les souffrances comme son maître, lorsque cela est nécessaire. Et donc, Paul dit à Timothée, souviens-toi aussi des souffrances de Christ. Souviens-toi aussi que Jésus-Christ vit à jamais, parce qu'il dit, souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David et ressuscité des morts. Et donc, il faut se rappeler qu'on a un sauveur qui est vivant. Je sers, dit un cantique, un sauveur vivant. Il est tout près de moi. Jésus-Christ vit aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est important et qui doit nous encourager lorsque les difficultés sont là. En Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul rappelle l'importance de la résurrection et le lien qui existe d'ailleurs entre la résurrection, la réalité de la résurrection de Christ et les privations même, les souffrances même qui sont consenties dans la vie. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 30 et verset 32, il explique cela un petit peu. Et puis, souviens-toi de Jésus-Christ, que Jésus-Christ règne aussi à jamais. Il dit, il est issu de la postérité de David. Et donc, il évoque en cela sa descendance, il règne à jamais, sa descendance royale et son règne. L'ange avait dit à Marie, vous vous rappelez, que Jésus sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et que le Seigneur, Dieu lui-même, lui donnera le trône de David, son père, et qu'il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et que son règne n'aura point de fin. Donc quand il dit, souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David, il lui dit que Jésus-Christ est vraiment celui qui a été envoyé loin de Dieu, le descendant, pourrait dire, de David, et celui qui règne à jamais. Son règne n'aura point de fin. Donc non seulement le Seigneur Jésus est vivant éternellement, mais encore, il règne éternellement. Et il domine, son règne domine sur toute chose. Parfois, quand on souffre, on a l'impression que Dieu est absent, hein, qu'il ne voit même pas notre souffrance ou nos difficultés. Et Paul encourage Timothée en disant que Dieu voit toutes choses, Dieu règne, il sait toutes ces choses. Il permet parfois que nous soyons délivrés des difficultés, des souffrances, comme il a permis à Pierre d'être délivré de la prison, mais parfois il permet que la difficulté demeure, comme il a permis que la difficulté demeure dans la chair de l'apôtre Paul. Donc c'est lui qui guide toutes choses, mais on doit se souvenir, en tout cas, que notre Seigneur Jésus-Christ est le Sauveur. Le Seigneur, qu'il est vivant et qu'il règne à jamais. Donc le premier pas pour endurer les souffrances de l'Évangile et vraiment de se souvenir de Jésus-Christ, de son salut, de ses souffrances, de sa mort, de sa résurrection, de son exaltation, de son règne, et puis aussi, bien sûr, de son retour. Et toutes ces choses sont propres à encourager le chrétien dans sa marche avec Christ. Deuxièmement, on peut voir que pour endurer les souffrances de l'Évangile, il faut se souvenir aussi de la puissance de l'Évangile. Pour endurer les souffrances de l'Évangile, il faut se souvenir de la puissance de l'Évangile. Regardez avec moi notre texte, verset 8, il dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon Évangile. » Et au verset 9, « Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Mon Évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Donc, une deuxième source de motivation, c'est la puissance de l'Évangile ou la puissance de la parole de Dieu. Paul dit à Timothée que la parole de Dieu n'est pas liée. Et donc, il dit que le sort de l'Évangile n'est pas lié au sort des messagers. Le messager peut être en prison, mais la parole de Dieu n'est jamais en prison. Si elle est dispensée dans la prison, mais elle n'est pas emprisonnée. Et on ne peut pas empêcher à la parole de Dieu de progresser. Et il est souvent naturel, n'est-ce pas, à l'esprit humain, de lier une personne à la cause qu'elle défend. Je me souviens quand j'étais étudiant à Bordeaux, parce que j'ai oublié de vous dire que j'ai fait mes études aussi à Bordeaux, hein, c'est là tout mon attachement à cette ville, hein. C'est dans cette ville que j'ai connu mon épouse, qui était étudiante aussi, donc j'ai vécu plusieurs années à Bordeaux. Et nous étions à l'église au cours de la Marne, et il y avait un jeune, je me souviens, que vous connaissez pas, il est plus ici, mais... nous étions allés le voir parce que, voilà, il était un petit peu en baisse de régime, et ça faisait 2-3 dimanches qu'il ne venait plus. On est allé voir pour l'encourager un petit peu sous le campus, et il y avait quelqu'un qui l'avait amené à Christ, bien sûr, et cette personne était partie dans son pays pour quelques mois, je crois. Et on lui a dit, alors, comment on te voit plus, ça ne va plus, il dit, et en nous citant cette personne, il dit, mais cette personne n'est pas là. Et vous voyez, c'est-à-dire, celle qu'il avait amenée à Christ était partie pour quelque temps, et il était tellement attaché à cette personne qu'il était découragé. Et voilà, et sa foi n'a pas vacillé, bien sûr, mais disons qu'il était, voilà, attristé, il avait un peu baissé les bras. Et parfois, hein, lorsque un mentor, on pourrait dire, passe par des moments difficiles, ça peut entraîner une baisse de régime chez ceux qui ont été mis à son contact. Les disciples, hein, ont chuté quand Jésus a été emprisonné, quand il a été, en tout cas pendant son procès. Et ils se sont dispersés, ils l'ont abandonné. Et il arrive que dans notre esprit, hein, une cause disparaît avec ceux qui sont les fers de lance de cette cause. Et ça arrive souvent dans le monde que des hommes défendent une cause et puis une fois pour pouvoir éliminer cette cause, eh bien on supprime la personne qui a été le fondateur de la cause. Et beaucoup de mouvements ont disparu avec leur fondateur. Mais en ce qui concerne l'Évangile, il n'en est absolument pas de même. Et l'apôtre dit je suis lié, hein, lui, moi qui t'ai présenté l'Évangile, comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Et ça, c'est quelque chose qui est important à considérer. On parle beaucoup de chrétiens persécutés, et il faut souligner aussi que, à travers souvent la persécution, eh bien, la parole de Dieu se propage. Et parfois, on se pose même la question si elle ne se propage pas plus vite à travers la persécution que dans des périodes comme celles que nous vivons où nous ne sommes pas à persécuter. Au début de l'histoire de l'Église, hein, il a fallu la persécution pour que les disciples se dispersent et que l'Évangile puisse se propager. Et ça s'est propagé très 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 vite, hein. Et si vous lisez l'histoire de l'Église, et quelqu'un même disait que le sang des martyrs est la semence des chrétiens. Quand on persécutait, qu'on faisait mourir les chrétiens, eh bien c'était comme si on semait davantage l'Évangile et l'Évangile se propageait. Donc l'Évangile n'est pas lié au sort de ses messagers. L'Évangile, le sort de l'Évangile n'est pas lié non plus aux circonstances, à la difficulté que l'on peut connaître. Et même plus que cela, on peut dire que l'Évangile se propage parfois par la difficulté. Il ne se propage pas malgré la difficulté, mais souvent il se propage même par les difficultés. C'est exactement ce que l'apôtre Paul, qui était en prison à Rome, dit aux Philippiens quand il leur écrit sa lettre. Il dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Voilà, il était emprisonné, peut-être que les frères sont là et souffrent pour cela. Et il dit « Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Il dit « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Et donc dans ce passage de Philippiens 1 que je vous ai lu, versets 12 à 14, l'apôtre montre que cette difficulté, cet emprisonnement dans lequel il se trouve, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Et quand il, un peu plus tard dans la lettre, il dit même que c'est monté jusqu'à César, parce qu'il parle de ceux de la maison de César qui se sont tournés vers Christ. Donc, le sort de l'Évangile, non seulement n'est pas lié à la nature des circonstances, mais bien souvent se sert même des circonstances pour se propager, dans bien des cas. L'Évangile, on pourrait dire, se joue des lieux, il se joue des personnes, il se joue des technologies, et c'est vraiment cela que nous devons considérer. L'Évangile n'est pas lié à ce que nous pouvons vivre. L'apôtre Paul a engendré Philémon, il dit que c'est ton enfant, Onésime, je l'ai engendré étant dans les chaînes, c'est-à-dire étant en prison, il a amené quelqu'un à Christ. Donc il montre par là que l'Évangile n'est pas lié, même si lui, il est lié. Et c'est ainsi qu'il encourage Timothée. La Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ces vérités doivent rester gravées dans notre cœur. L'Évangile en lui-même est la puissance de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis libre que l'Évangile est puissant. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de difficultés que l'Évangile se propage mieux. L'Évangile a sa puissance contenue en lui-même. C'est la parole, c'est parce que c'est la parole de Dieu, c'est une semence vivante, et on ne peut la lier. La parole de Dieu n'est pas liée parce qu'elle est, on pourrait dire aussi, la parole de Dieu. Et Gamaliel l'a dit, vous vous souvenez de cela, quand il a parlé en disant qu'on ne pouvait pas, lorsqu'on voulait empêcher aux premiers disciples de propager l'Évangile, il avait dit, si cette œuvre vient de Dieu, elle se des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas vous y opposer. Vous ne pouvez pas la détruire. Parce que c'est une œuvre qui vient de Dieu. Donc l'Évangile, ainsi l'Évangile, n'est pas lié parce que l'Évangile vient de Dieu. Ce n'est pas une œuvre qui vient des hommes. Parfois, les gens nous disent, ouais, vous, c'est ce que vous croyez, c'est, oui, Jésus-Christ, oui, mais tout ce qu'on raconte autour, hein, c'est Paul, c'est pas l'Évangile, c'est les hommes qui ont fait cela. Non, l'Évangile, c'est la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Ça n'est pas une œuvre humaine. Donc, deuxièmement, pour endurer donc les souffrances de l'Évangile, il faut se souvenir de la puissance de l'Évangile. Et cette parole que nous avons, que nous pouvons présenter aux hommes et aux femmes est une puissance. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Troisièmement, pour endurer les souffrances de l'Évangile, il faut se souvenir des desseins bienveillants de Dieu. Regardez au verset 10. L'apôtre Paul dit « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Troisième axe de méditation pour Timothée, c'est celui des élus de Dieu. Paul donne ici la raison pour laquelle il supporte les souffrances dans les chaînes. Il dit que cette injustice, même des hommes, cette souffrance qu'il endure, c'est à cause des élus de Dieu et de leur salut. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Et c'est une chose à laquelle nous ne pensons pas souvent. Paul aurait pu donner ici beaucoup d'autres raisons pour lesquelles il souffre, mais à Timothée, il lui dit qu'il souffre pour amener les élus de Dieu à la connaissance de Christ. Ce que Dieu s'est choisi est une cause digne de toutes les privations et de toutes les souffrances. Il vaut la peine de souffrir pour conduire au salut les élus de Dieu. Et la Bible enseigne que les élus le sont dès avant la fondation du monde, Éphésiens chapitre 1, verset 4, et que Dieu a choisi, ce que Dieu a choisi doivent entendre le message de l'Évangile. Dieu a choisi dès avant la fondation du monde, mais il a prévu que ce soit par la prédication de la parole, par le fait d'entendre la prédication de la parole, que ces élus soient amenés à la connaissance de Christ. C'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 10, verset 14. Il dit, « Comment donc invoqueront-ils le Seigneur s'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler ?» Donc, il faut que les élus de Dieu entendent le message de l'Évangile. Et la parole doit être prêchée à ceux que Dieu a choisis pour que ceux que Dieu a choisis puissent croire. Et donc, lorsque Paul se trouve, vous vous rappelez, à Corinthe, la Bible dit qu'il est dans un état de grand tremblement. Et Dieu l'encourage en lui disant de ne pas se décourager, mais de savoir qu'il a un peuple nombreux dans cette ville. Il dit, parle, ne te tais point, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville, dans Actes chapitre 18. Et donc, c'est comme si Dieu permet un peu à Paul, déjà, de voir ce qui n'est pas visible, d'entrevoir déjà un peuple qu'il a choisi dans cette ville, qu'il ne connaît pas encore, mais qui existe, et qui doit entendre la parole de Dieu pour se tourner vers Jésus-Christ. Et ici, dans cette ville, j'ai participé une fois à une distribution et le frère qui était responsable de cela m'a dit, nous cherchons ici quelques personnes que Dieu a choisies. Enfin, on est découragé parce qu'on tend des traités, il n'y a personne, il n'y a rien. On se dit, ça fait des années qu'on est là, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Mais le frère, il m'a dit, c'est Dieu qui fait son œuvre. Nous faisons le travail parce que nous savons que Dieu a un petit groupe, un peuple, peut être grand, peut être un peuple en tout cas, qui lui appartient dans cette ville. Et nous cherchons ici les quelques personnes que Dieu a choisies. Mais en le faisant, on distribue à tous. Parce que Dieu dit qu'il ne mettra pas dehors ceux qui viennent à lui. Et donc ce n'est pas facile, bien sûr, de sortir en ville, d'affronter le rejet des gens lorsque on donne un traité ou une invitation, lorsque l'on partage l'évangile. Mais ce qui encourage est de savoir que du point de vue de Dieu, il connaît ce qui lui appartient dans la ville où nous sommes. Et ça, c'est un grand encouragement, qu'il les a déjà choisis et qu'il vaut la peine de souffrir le rejet à cause de ses élus et pour qu'ils obtiennent aussi, comme l'apôtre Paul le dit à Timothée ici, le salut en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Et cela nous encourage parce qu'on sait que le fait que Dieu a choisi déjà son peuple, eh bien le travail ne sera pas vain. Hein, ce que l'apôtre Paul dit. Hein, puisque Dieu a choisi son peuple, il y aura des gens qui viendront à Jésus-Christ. Et cela doit nous encourager. Paul dit à Timothée, je souffre toutes ces choses à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut. Ceux que Dieu a choisis font l'objet de son intérêt et il est prêt à souffrir pour cela aussi. Nous aussi, nous devons être prêts à souffrir pour que les âmes soient attirées à Christ. Et donc, vous voyez que la réalité ici de l'élection ne remplace pas l'œuvre humaine de la distribution, de l'évangélisation. Au contraire, il encourage. Et que quand on saisit bien l'élection, on n'est pas découragé de faire des efforts, mais au contraire, on est encouragé. Et cela remplit le cœur du chrétien d'une conviction pour l'évangélisation, parce qu'il sait que cette œuvre, ce ministère aura du succès, parce que Dieu a choisi son peuple et qu'il va le mener à la connaissance de Jésus-Christ. Donc, troisièmement, je résume, pour endurer les souffrances de l'évangile, eh bien, il faut aussi se souvenir des desseins bienveillant de Dieu. Dieu a choisi son peuple, les élus. Et il veut que par notre témoignage, ils entendent l'évangile. Et même si c'est difficile, cela doit nous encourager à continuer. Même si on dit on n'est pas nombreux, cela doit nous encourager, bien sûr, à continuer. Même si on dit, pour l'instant, on n'a pas un pasteur fixe, cela doit nous encourager à continuer. Parce que Dieu a son peuple ici dans cette ville. Et puis je termine, quatrièmement, pour endurer aussi les souffrances de l'évangile, il faut se souvenir de la certitude des promesses de Dieu ainsi que de ses menaces. Regardez le verset 11. Paul dit: cette parole est certaine. Il veut que Timothée se souvienne d'une certitude, et laquelle, il dit, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et à la fois, je trouve, dans cette parole certaine que Paul donne ici, comme des promesses et en même temps des menaces, des avertissements pour l'enfant de Dieu. Donc c'est une heureuse promesse, en même temps une terrible menace, je crois qu'il donne ici. D'un côté, l'acceptation par Dieu de tous ceux qui sont identifiés à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi nous sommes morts, dit-il verset 11, avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Donc il s'agit ici de vrais croyants, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, car les vrais croyants persévèrent jusqu'à la fin, les vrais croyants persévéreront jusqu'à la fin. C'est ce que nous lisons dans la Bible, et par exemple en 1 Jean chapitre 2 verset 9, il est dit, il parle de personnes qui sont parties, qui ont abandonné, et l'apôtre Jean dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Et ceux qui sont vraiment en Christ demeurent en Christ. Ceux qui sont en Christ demeurent en Christ. S'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Voilà ce que l'apôtre Jean dit. Donc ici, nous savons que ceux qui sont à Christ, qui sont mis au bénéfice de l'œuvre de Christ accomplie à la croix du calvaire, eh bien, vivront aussi avec lui. Donc ces paroles sont claires. Je crois qu'il y a des personnes qui vivent parfois au milieu des chrétiens, mais qui ne sont pas des chrétiens. Et cela est un avertissement. Il ne faut pas penser que parce qu'on aime la compagnie des chrétiens, ou parce qu'on se retrouve parmi des chrétiens, qu'on est un enfant de Dieu. Il faut vraiment venir à Jésus-Christ et donner sa vie et son cœur à Jésus-Christ. On peut être au milieu de chrétiens sans être véritablement un chrétien. Mais la parole ici nous dit que si, Paul dit à Timothée, si nous sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec lui. Si nous le connaissons véritablement, nous avons mis notre confiance en lui, eh bien nous savons que nous vivrons aussi avec lui. Et donc on n'a pas à avoir peur même des souffrances physiques que nous pourrions connaître sur cette terre, parce que nous sommes appelés à la vie éternelle dans la présence de Jésus-Christ. Et donc le « si », on peut dire ici, n'est pas là pour induire une possibilité concernant le chrétien, comme s'il était possible pour le vrai chrétien, que le vrai chrétien ne persévère pas, ou que le vrai chrétien, par exemple, ne soit pas mort avec Christ. Mais à travers ce texte, Paul donne à Timothée vraiment la certitude de triomphe, on pourrait dire, final du chrétien, qui endure jusqu'au bout les souffrances pour l'évangile. Il dit non pas que les souffrances lui procurent le salut, mais le salut de Dieu agit en lui et lui fait persévérer même à travers les souffrances. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Cela fait penser, bien sûr, à ce que Jésus disait déjà en Matthieu 10. Il dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et ces paroles sont bien sûr terribles. Elles caractérisent le rejet par le Seigneur de ceux qui ne croient pas en lui. Ceux qui ne sont pas, qui ne viennent pas véritablement à lui. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Notre passage dit, si nous sommes incrédules, lui demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Et ce verset n'indique pas que Dieu passera l'éponge sur l'incrédulité passagère de ses enfants, mais simplement que lui, il est fidèle, qu'il est cohérent à lui-même, qu'il est fidèle dans ses promesses et aussi dans ses menaces. Et donc, nous devons considérer ces choses. Et Paul dit à Timothée qu'il vaut la peine de vivre cette vie et de persévérer jusqu'au bout. Parce que ceux qui persévèrent jusqu'au bout, il dit, si nous persévérons, eh bien, ils régneront aussi avec Dieu. Mais il faut persévérer jusqu'au bout. Mais en même temps, le vrai chrétien persévère jusqu'au bout. Nous avons néanmoins des efforts à accomplir dans notre vie, à accepter ce que les situations, bien souvent difficiles parfois, dans lesquelles le Seigneur nous place. Et certainement, Paul encourage Timothée, qui est, on l'a dit tout à l'heure, affaibli, peut-être peureux, vu la situation de Paul. Il encourage à marcher avec le Seigneur, à ne pas baisser les bras, parce que ceux qui persévèrent, il dit, eh bien, ils régneront aussi avec Christ. Donc, chers frères et sœurs, si nous voulons être encouragés dans notre marche avec Dieu, parfois même quand les difficultés sont là, eh bien, il faut se souvenir de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts. Il faut se souvenir que l'évangile, la parole de Dieu, ne peut pas être liée, que même si nous connaissons des difficultés, Dieu peut utiliser ces difficultés pour que sa parole continue à se propager à travers même les souffrances que nous pouvons connaître. Il faut aussi se souvenir des desseins bienveillants de Dieu pour son peuple. Il a choisi ses élus dès avant la fondation du monde. Et Dieu veut que nous, peut-être même à travers, que ce soit à travers la souffrance, que ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie puissent le connaître. Et l'apôtre Paul dit qu'à cause de cela, il accepte la souffrance. Et nous, il nous encourage ainsi à faire de même. Et puis aussi, se souvenir des promesses que Dieu donne. Si nous persévérons, eh bien, nous régnerons avec lui. Si nous sommes morts avec lui, si nous le connaissons, eh bien, nous vivrons avec lui. Donc, on pourrait dire ici que, c'est comme si Paul disait à Timothée, le meilleur est encore à venir. Et donc, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas baisser les bras, quelle que soit la situation, quel que soit notre nombre, quelles que soient les difficultés que nous connaissons, eh bien, nous sommes appelés à endurer ce que nous appelons comme nos souffrances, bien les souffrances de l'Évangile. Et c'est ainsi que je crois que le Seigneur veut que nous vivions, et c'est ainsi que Paul encourage son jeune serviteur en lui disant « Souffre donc avec moi, prends ta part de souffrance ». Et donc le Seigneur nous encourage aussi ce matin à prendre notre part de souffrance à chacun. Prions. Merci Seigneur pour ta parole et merci pour cet encouragement de Paul à Timothée que nous voulons prendre pour nous aussi. Et nous pouvons être découragés, peut-être encore plus facilement que Timothée, par des difficultés dans notre propre vie ou des circonstances particulières que nous vivons. Nous pouvons être tentés d'abandonner, de faire autre chose. Et donne-nous de considérer encore ces paroles avec l'aide de ton esprit, que nous sommes appelés à endurer les souffrances de l'Évangile en regardant à toi, nous souvenant de ta personne, de ton œuvre, de ton amour, en saisissant que ta parole n'est pas liée, que l'Évangile est ta puissance pour le salut de quiconque croit, en nous souvenant que nous-mêmes nous avons été choisis bien avant la fondation du monde et que tu as encore ton peuple que tu veux ramener à toi. Que cela nous encourage à supporter les souffrances pour que d'autres puissent être dans ta bergerie. Et aussi, Seigneur, que les promesses de ta parole, de la vie, de la félicité à venir, de la vie dans ta présence, puissent nous encourager, que les avertissements de ta parole aussi puissent nous maintenir dans une vie conforme à ta parole. Seigneur, aide-nous à considérer ces choses et que ton esprit, par ton esprit,